Chapitre 56. Bien emmitouflé dans son manteau, Callan marchait à côté de l'empereur, dont elle était devenue la compagne inséparable et docile. Pas parce qu'elle le voulait, bien entendu, mais parce qu'il le lui imposait par la force ou par la menace de la force, ce qui revenait au fond au même. La nuit, elle dormait sur sa fourrure, comme une chienne, alors qu'il se reposait dans son lit. Une façon de lui rappeler le destin qui la guettait, quoi qu'elle fasse. Le jour, elle le suivait partout où il allait, et grâce au collier des maudites sœurs de l'obscurité, il n'avait même pas besoin de la promener en laisse. Mais pourquoi la haïssait-il à ce point? Au nom de quoi la punissait-il comme si elle était responsable de tout le mal que lui faisaient ses ennemis et de tout ce qu'il abominait en eux? Quoique Callan ait fait à Jagang pour s'attirer cette détestation, il l'avait amplement méritée, elle n'en doutait pas un instant. Un vent glacé lui cinglant le visage, Callan releva le col de son manteau pour se protéger. Partout autour d'elle, les soldats tournaient la tête pour éviter d'être blessés par le sable que charriaient les bourrasques. L'hiver approchait et dans ces plaines, alors que le siège du palais traînait en longueur, la mauvaise saison menaçait d'être difficile à supporter. Mais Jagang n'abandonnerait pas, c'était une certitude. Comme un molosse, cet homme-là ne lâchait pas un os avant de l'avoir rongé. De plus, une copie du grimoire des ombres recensées était en principe cachée dans le complexe, et l'empereur voulait absolument mettre la main dessus. Devant le palais du peuple, le chantier continuait à progresser. Les travaux étaient en cours depuis le début de l'automne, et si c'était nécessaire, ils dureraient tout l'hiver, si le sol ne gelait pas, rendant toute excavation théoriquement impossible. De toute façon, même dans ce cas, Jagang devait avoir un plan. Le feu, probablement, afin d'empêcher la terre de durcir. En outre, lorsqu'il ne pleuvait pas, on devait pouvoir creuser le sol, même par grand froid. La porte géante du complexe était indestructible, et la route extérieure ne permettait pas de lancer une attaque massive. Toujours imaginatif, Jagang avait trouvé une solution. Puisqu'on ne pouvait pas passer par l'intérieur, ni par la voie d'accès extérieure actuelle, on allait construire une rampe géante qui donnerait directement accès au palais. Une fois en position devant leur cible, les machines de guerre de l'ordre réussiraient tôt ou tard à démolir les murs du fief ennemi. Ensuite, ce serait la curée. Mais il fallait d'abord arriver là-haut. D'où la construction de la rampe, dont la largeur, aux yeux de Callan au moins, semblait démesurée. Mais il y avait deux bonnes raisons à cela. L'une stratégique et l'autre architecturale. Pour lancer une attaque massive impossible à repousser, il fallait qu'une marée d'assaillants déferle sur les défenseurs. Sans une rampe assez vaste, c'était impossible. Mais de toute façon, avec la hauteur à atteindre, car le plus haut plateau culminait à plusieurs milliers de pieds, la base de la rampe devait être énorme, sinon elle risquait de s'écrouler en atteignant une certaine hauteur. En d'autres termes, pour atteindre le palais, le génie de l'ordre devait construire une petite montagne. Décidément, Jagang ne lâchait jamais rien. La longueur de la rampe promettait d'être extraordinaire. Pour que la montée ne soit pas trop abrupte, donc impossible à négocier par les hommes et les chariots, il avait fallu partir de très loin et suivre un angle ascendant très progressif. À première vue, l'idée semblait aberrante, un projet irréalisable sorti du cerveau dérangé d'un dément. Mais ce que pouvaient accomplir des millions d'hommes désœuvrés, sous les ordres d'un chef qui se fichait de leur bien-être, se révélait stupéfiant. Le jour et la nuit, à la lueur des torches, d'interminables colonnes d'hommes transportaient des blocs de pierre jusqu'au chantier, pendant que d'autres, s'attaquant au versant du haut plateau, s'échinaient à extraire cette précieuse matière première. La fabrication du mortier occupait à elle seule 10 000 soldats au bas mot. Sur ce site, la démesure de l'ordre impérial s'en donnait à cœur joie et le résultat était saisissant. Quand on disposait de tant de main-d'œuvre, n'importe quel chantier avançait à une vitesse stupéfiante. La rampe grandissait à vue d'œil. Bientôt, sa hauteur serait un obstacle à cause du volume de pierre et de mortier requis et le rythme diminuerait sensiblement, mais tôt ou tard, l'objectif serait atteint. Callan trouva logique, en y réfléchissant bien, que des barbares attaquent une merveilleuse construction en marbre blanc à partir d'une rampe faite d'un mélange de pierre et de poussière. Depuis toujours, l'ordre impérial traînait dans la boue les plus belles réalisations de l'humanité. Désormais, ce serait vrai au propre comme au figuré. Kalan aurait su dire quand la rampe serait terminée. Jahagang n'en savait probablement rien non plus, mais il répétait chaque jour à ses officiers que le but ultime serait bientôt atteint. Afin de triompher, l'ordre avait besoin du dévouement total des soldats, et quand il s'agissait d'abattre le dernier bastion de la liberté, l'empereur se montrait intraitable. Pas question d'échouer. Alors qu'elle observait le chantier, collé au basque de Jahagang comme d'habitude, Kalan vit qu'un messager approchait du premier cercle du camp au grand galop. Au sud, dans le lointain, plusieurs colonnes de poussière annonçaient l'arrivée d'un convoi de ravitaillement. La prisonnière l'avait repéré depuis des heures, et à présent les premiers chariots entraient dans le camp. L'empereur avait été soulagé par l'arrivée de ce convoi. Une armée en campagne, surtout de cette taille, avait sans cesse besoin d'être approvisionnée. Sur un terrain comme les plaines d'Azrit, où il n'y avait ni ferme ni champ et pas davantage de pâturage, la nourriture devenait littéralement le nerf de la guerre. Pour rester en vie et construire l'ambitieuse rampe de Jahagang, les soudards de l'ordre avaient besoin d'être soutenus et alimentés par l'ancien monde. En d'autres termes, le cordon ombilical qui les reliait à la mère patrie ne devait surtout pas être coupé. Dès qu'il eut mis pied à terre, le messager approcha de l'empereur, se mit au garde-à-vous et attendit patiemment. Au bout d'un moment, Jahagang daigna lui accorder son attention. Et il fit également signe à un petit groupe d'officiers de venir le rejoindre.
« Excellence, dit l'homme en inclinant la tête, j'arrive avec les vivres que vous envoient les bonnes gens de l'Ancien Monde. Beaucoup de civils se serrent la ceinture pour que nos vaillants guerriers puissent accomplir leur noble mission. »
« Eh bien, ces vivres ne seront pas inutiles, voilà qui est certain. Les hommes travaillent dur et il faut les garder en forme. »
« Nous vous amenons aussi plusieurs équipes de Jala qui veulent participer au tournoi, afin d'avoir peut-être la chance un jour de rencontrer vos extraordinaires champions, Excellence. »«
De quelle équipe s'agit-il ? »
demanda Jahagang tout en consultant du coin de l'œil la liste de fournitures que le messager lui avait remise.
« Eh bien, elle représente plusieurs corps d'armée, et il y a aussi celle du général qui commande le convoi. Pour la renforcer, il a recruté des hommes du Nouveau Monde. » Avec des joueurs triés sur le volet, il espère fournir un spectacle qui vous satisfera, Excellence.
Jahagang acquiesça sans cesser de vérifier la liste.
Ces infidèles ont besoin d'apprendre notre façon de penser. Et le Jala est un très bon moyen de les initier à la culture de l'ordre. De plus, il permet à des esprits simples d'oublier pour un moment les tourments que nous endurons tous dans cette impitoyable vallée de larmes.
« Bien sûr, Excellence. »
L'empereur leva enfin les yeux de sa liste.
« Des rumeurs sont parvenues jusqu'à moi. L'équipe qui comprend des prisonniers est aussi bonne qu'on le prétend. »«
Encore meilleure que ça, Excellence. Elle a battu des équipes qu'on estimait invincibles. Au début, on a invoqué la chance. Aujourd'hui, plus personne ne s'y risquerait. Le marqueur, par exemple, est considéré comme le meilleur de tous les temps, ni plus ni moins. »
« Impossible. Le meilleur joue dans mon équipe. »«
Bien sûr, Excellence, où avais-je la tête? Disons, le deuxième meilleur de tous les temps. »«
Et quelles nouvelles m'apportes-tu de notre patrie ?»
Le messager hésita un moment.
« Excellence, il n'y a rien de très bon, j'en ai peur. Le convoi qui devait partir après nous a été attaqué alors qu'il était en cours de formation et il n'en reste rien. » Tous les bleus censés voyager avec les chariots, morts jusqu'au dernier, Excellence. Des milliers de têtes fichées sur des pics, sur toute la longueur d'une route qui relie maintenant deux cités entièrement rasées et incendiées. L'ancien monde est en feu, Excellence, et quand le vent souffle dans la bonne direction, on sent l'odeur de la fumée à des dizaines de lieues de distance. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé, mais on connaît les coupables, des soldats du Nouveau Monde.
Jahagang jeta un coup d'œil à Kalan, sans doute pour voir si elle souriait. Mais elle n'en avait plus besoin, désormais capable de se réjouir intérieurement en gardant un visage de marbre. Sans le montrer, elle applaudissait à chaque seconde les héros inconnus qui commençaient à empoisonner sérieusement la vie de Jahagang. Des rumeurs dévastatrices pour le moral des troupes circulaient dans le camp. Ayant toujours estimé que l'ancien monde était invulnérable, les soldats étaient touchés au cœur même de leur foi. Comme toujours, en se répandant, les rumeurs enflaient régulièrement.
Pour limiter les dégâts, Jagang avait fait exécuter plusieurs hommes coupables d'en avoir trop dit. Sans pouvoir en être sûre, car elle n'avait aucun rapport avec les Soudards, qui pour la plupart ne la voyaient pas, Kalan doutait que ces mises à mort aient rempli leur office. Si les combattants s'inquiétaient, que devait-il en être des civils dans l'Ancien Monde? Leur armée étant en campagne, ils devaient se sentir livrés à eux-mêmes.
« Les rapports sont formels, Excellence. Les maraudeurs détruisent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Ils brûlent les récoltes, abattent les troupeaux, rasent les moulins, détruisent les barrages et incendient toutes les fabriques qui produisent des biens divers afin de contribuer à notre glorieux effort de guerre.
Les frères de l'ordre sont devenus des cibles, Excellence. Nos ennemis les tuent pour les empêcher de répandre la bonne parole. »
Apparemment imperturbable, Jagang bouillait de rage. Et Kalan le savait aussi bien que les quelques officiers présents.
« A-t-on une idée de l'identité de l'unité ennemie qui se charge d'exécuter nos missionnaires ?»«
Excellence, on ne sait pas trop, mais... Eh bien, chaque fois qu'on découvre le cadavre d'un frère ou d'un fidèle particulièrement actif de l'ordre, on constate qu'il lui manque l'oreille droite. »
Jagang s'empourpra de rage.
Excellence, demanda un des officiers, peut-il s'agir des hommes qui nous ont harcelés pendant que nous traversions les contrées du milieu?
Ils coupent les oreilles. Que te faut-il comme preuve supplémentaire?
Rugit l'empereur.
Nous devons en finir avec ces chiens, compris? Et c'est votre travail, pas le mien.
Oui, Excellence.
S'exclamèrent en chœur les officiers.
« Alors, bougez-vous, bande d'abrutis !»
Tandis que les officiers partaient au pas de course, Jagang s'éloigna à grandes enjambées. À l'évidence, il avait l'intention de sortir du premier cercle. Une lance de douleur jaillit du collier, signalant à Kalan qu'elle devait suivre son tortionnaire. Elle emboîta le pas à la petite armée de gardes d'élite qui se hâtait déjà de rejoindre le maître de l'ordre.